Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec au menu les élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, nous entendrons de nombreux témoignages. Avec le HCR, nous verrons comment plus d'un million de migrants sont arrivés par bateau en Europe en 2015. Notre rétrospective du jour sera justement consacrée à la crise syrienne. Enfin, avec l'OIT, nous nous intéresserons au chômage des jeunes. C'est parti, le premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives a commencé ce matin en République centrafricaine. Aux dernières nouvelles, le scrutin se déroulait sans incident, comme souhaité par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans un message adressé mardi soir. Je vous propose d'entendre ces témoignages d'électeurs et du commandant de la force militaire de la MINUSCA, le général Bala Keïta, recueilli ce matin dans un bureau de vote du PK5 de Bangui, des propos recueillis par Mafayek de Gira FM.
Ça s'est bien passé? Vous avez voté pour les présidentielles et les législatives?
Oui, ça a été bien passé. J'ai voté pour les présidentielles et les législatives. C'est très bien. C'est très bien organisé.
Hein.
C'est très organisé, exceptionnel pour nous, les centres.
Qu'est-ce que vous faites, général Keïta, au 3e arrondissement?
Ah oui, mais je viens voir mon champ de paix. Tout est en ordre, les gens sont alignés. Mais apparemment, je pense que tout se passe bien. Parce que bon, vers les environs de 17h30, bon, tout le monde aura eu l'occasion de voter, et puis bon, voilà, et puis qu'on commence le dépouillement vers les coups de 18h.
Un processus électoral centrafricain lourd à mettre en place en tirant les leçons des incidents du référendum du 13 décembre dernier. Comme a pu le constater Adrien Blanc, le correspondant de Gira FM qui a assisté au lycée de Boire à une mise à niveau avant les élections nationales des membres du bureau de vote organisé par l'autorité sous-préfectorale des élections.
Une centaine de membres de bureau de vote ont écouté attentivement Marietta Karine Ngaba de la SPE de Boire.
Ce qui n'est pas permis, c'est pour un électeur, quand il a déjà pris le bulletin pour aller vers l'isoloir, dites-lui si son téléphone sonne qu'il ne décroche pas, qu'il finit d'abord de faire son choix et au sortir peut décrocher.
Grâce à cette formation, Marianne Zello du bureau de vote de l'hôtel de ville de Boire a pu aborder les questions qui la préoccupaient encore.
Nous avons d'abord vu le fonctionnement du bureau, la composition du bureau, le dépouillement, comment on peut remplir les fiches de résultats, de dépouillement, comment envoyer les enveloppes pour la présidentielle et la législative. Je suis maintenant capable d'organiser cette élection.
Reste le problème des personnes analphabètes. Adam Grebada du bureau de vote du lycée a compris que ce n'était pas son rôle de les aider.
Nous n'avons pas vraiment l'opportunité de montrer à quelqu'un que soit comment il peut aller voter. Vraiment, c'est très grave pour nous de faire ça.
Bref, organiser le vote est une grande responsabilité pour Honora Biompin.
Il faut s'engager, au moins faire quelque chose pour son pays. Si au moins on peut donner notre honnêteté et notre franchise pour faire ce travail, si ça peut avantager notre pays, autant faire de son mieux.
Honora Biompin, comme les autres membres de bureau de vote, invite les personnes enregistrées à aller voter ce mercredi.
Plus d'un million de migrants et réfugiés sont arrivés par la mer en Europe en 2015, estime ce mercredi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des milliers de Syriens ou Irakiens qui ont rejoint le continent européen par d'autres moyens via la Bulgarie. Alpha Diallo.
Cette année, plus de 1 500 000 migrants et réfugiés, dont le quart des enfants, sont arrivés en Europe par la mer. Dans ce lot, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés note qu'ils sont plus de 844 000 à débarquer en Grèce, plus de 152 000 en Italie et 105 en Malte. Ces nouvelles données ne tiennent pas compte de ces migrants détenteurs de visa et ayant franchi les frontières européennes par voie aérienne. Par ailleurs, des chiffres de l'OIM publiés la semaine dernière estimaient que plus de 34 000 personnes sont également arrivées depuis la Turquie, en Bulgarie et en Grèce par voie terrestre. Selon cette agence basée à Genève, un arrivant en Europe sur deux ayant traversé la Méditerranée cette année était un Syrien fuyant la guerre dans son pays. Les Afghans représentent 20% du total et les Irakiens 7%. Les autres pays de provenance sont l'Érythrée, le Pakistan, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, la Gambie et le Mali. Mais la HCR rappelle que ces périlleuses traversées en Méditerranée ne sont pas sans risque puisque 3 735 réfugiés sont morts ou portés disparus. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Suite de nos rétrospectives, la Syrie a été en 2015 au cœur de l'actualité sur plusieurs plans, en raison notamment de la hausse spectaculaire du nombre de réfugiés, mais aussi des personnes déplacées. Et ce alors que la violence n'a fait qu'augmenter entre les forces syriennes, les rebelles et Daesh. Seule source d'espoir en fin d'année, l'adoption de la résolution 2254 par le Conseil de sécurité et l'imposition d'une trêve. Mais la prudence reste de mise. Tsige Chiferao.
Alors que le conflit en Syrie se perpétue depuis bientôt 5 ans, le financement de la coordination humanitaire est problématique. C'est ce qu'indiquait en février Kung Gwakang, sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires.
À la fin de l'an dernier, le plan d'aide humanitaire pour la Syrie n'avait été financé qu'à hauteur de 48%. Nous ne pouvons pas nous permettre les terribles conséquences entraînées par tout échec à répondre à ces besoins. Nous pouvons faire plus si nous avons les fonds pour le faire. Le manque de financement a déjà contraint le PAM à réduire les rations alimentaires de 30%. À long terme, si nous ne recevons pas ce dont nous avons besoin, nous serons seulement en mesure de donner des vivres aux personnes extrêmement vulnérables. Pour chaque million de dollars que l'OMS ne réussit pas à lever, quelque 227 000 personnes perdent leur accès à des services de santé essentiels. À moins de recevoir un financement urgent avant le mois de mai 2015, 1 million d'enfants qui sont à présent déscolarisés n'auront pas accès à des options éducatives alternatives. Les programmes de malnutrition pour jusqu'à 1 million d'enfants devront s'arrêter ou être réduits. La communauté humanitaire doit se rassembler pour ramener toutes les opérations en Syrie, par-delà les lignes de feu et des frontières, sous l'égide d'un seul plan d'aide pour 2015. Cela permettra de mieux identifier les besoins et de déboucher sur une meilleure réponse. Mais pour que cela puisse fonctionner, des ressources sont nécessaires.
De son côté, le Programme alimentaire mondial, le 30 mars dernier, indiquait les besoins croissants de l'organisation à mesure que la guerre continue. Joël Aïd, porte-parole du PAM en Jordanie.
On a besoin de 1,5 milliard pour assister près de 6 millions de Syriens cette année. Les gens qui sont déplacés dans la Syrie et les réfugiés dans le Liban, l'Irak, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie.
Au bout de 5 ans, est-ce qu'il y a eu un changement dans l'aide que le PAM apporte aux Syriens?
Non, on a toujours reçu l'aide. Le problème, c'est que le chiffre du nombre des personnes qui ont besoin de l'assistance s'élève et le support qu'on reçoit de la communauté donateur n'est pas suffisant.
Quels sont les besoins actuels de la population syrienne? Est-ce que ces besoins sont les mêmes qu'il y a 5 ans?
Maintenant, on a 6 millions de personnes, alors 4 millions dans la Syrie. Ça, c'est notre but chaque mois. 4 millions déplacés dans la Syrie qui ont besoin de la nourriture chaque mois et presque 2 millions réfugiés dans les pays voisins qui ont aussi besoin de l'assistance.
La Syrie a aussi continué en 2015 à générer le plus fort taux de réfugiés en fuite vers les pays limitrophes, l'Europe et l'Amérique. William Spindler, du Haut Commissariat aux réfugiés.
C'est la plus importante population de réfugiés générée par un seul conflit depuis un quart de siècle quand on a eu le conflit en Afghanistan. Cette crise est la plus importante au monde. Elle menace la stabilité non seulement de la région du Moyen-Orient, mais ailleurs aussi. Et la dégradation des conditions dans les pays d'accueil de ces réfugiés, les pays affectés sont la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Irak surtout, pousse un nombre important de réfugiés à rejoindre l'Europe et au-delà, mais l'écrasante majorité reste toujours dans la région. On parle des personnes réfugiées, c'est-à-dire qui ont quitté la Syrie, mais à l'intérieur de la Syrie, il y a 7,6 millions de personnes déplacées qui sont dans des situations précaires et parfois dans des lieux difficiles d'accès. La situation au nord de la Syrie est très tendue. Il y a des clashs entre les différents groupes armés et les gouvernements syriens. En juin 2015, plus de 24 000 personnes sont arrivées en Turquie depuis Tel Abyad et autres régions du nord de la Syrie à cause des conflits. Et maintenant, la Turquie est le pays hôte de réfugiés le plus important au monde.
Fin novembre, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, dénonçait la destruction d'infrastructures civiles. Maddalena Bartolotti, responsable de la mobilisation des ressources pour l'UNICEF en Syrie.
La Fapérienne, jeudi dernier, a endommagé l'une des stations de traitement d'eau les plus importantes en Syrie et sur laquelle dépendent 3 millions et 500 000 personnes, y compris 1 million d'enfants. C'est un exemple des violations quotidiennes des lois de la guerre en Syrie, dont beaucoup touchent l'infrastructure civile et donc affectent la vie des millions d'enfants et d'autres civils. Nous avons témoigné d'autres exemples, surtout pendant l'été à Alep, où l'eau a été coupée pendant 42 jours. Et ceci a affecté plus de 2 millions de personnes. Ce que l'UNICEF veut surtout rappeler à toutes les parties au conflit, c'est leur devoir de protection envers les infrastructures civiles, sans laquelle ce sont la vie des civils d'un million d'enfants qui sont affectés. La sécurité, c'est la première difficulté pour accéder aux différents endroits. Mais nous avons des différents moyens d'intervention et nous arrivons plus ou moins à intervenir dans tous les pays.
Le 18 décembre, la résolution 2254 a été votée par le Conseil de sécurité pour permettre la reprise de pourparlers le 25 janvier 2016. On écoute Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères.
En Syrie et pour la Syrie, il y a extrême urgence. Depuis 5 années, plus de 250 000 morts, 4 millions de réfugiés, 13,5 millions de déplacés et le terrorisme de Daesh jusqu'au cœur des villes. Il y a extrême urgence à résoudre cette crise qui constitue bien au-delà de la Syrie une menace pour la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, le texte que nous venons d'adopter à l'unanimité est une lueur d'espoir et ce que j'appellerais une résolution feuille de route. Il s'agit pour la communauté internationale de donner un cadre crédible à des négociations qui seront menées entre une délégation du régime et une délégation de l'opposition sous l'égide de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour établir une autorité de transition et permettre un cessez-le-feu.
A noter que ces pourparlers syriens fin janvier seront suivis d'une conférence sur l'aspect humanitaire du conflit au mois de février à Londres.
Et puis, autre retour en 2015 avec cette interview d'Azita Berar-Awad au micro d'Alpha Diallo. La directrice du département des politiques de l'emploi de l'OIT constate en le regrettant que malgré une légère amélioration durant la période 2012-2014, le taux de chômage des jeunes dans le monde reste bien supérieur à celui qu'il était avant la crise. On l'écoute.
Le chômage a entamé un mouvement de baisse, le chômage des jeunes. Nous sommes passés de 76,6 millions au sommet de la crise en 2014 à 73,3, donc une diminution de 3,3 millions. Ceci dit, les taux de chômage restent élevés à 13% à l'échelle mondiale et bien plus élevés que le taux qu'on avait avant la crise mondiale de l'emploi. Donc, nous félicitons d'un léger taux baisse des niveaux de chômage, mais la situation n'est pas tout à fait retournée à la normale et qu'il y a vraiment intérêt à focaliser sur les actions pour la promotion de l'emploi des jeunes.
Peut-on parler de reprise économique par rapport à ces nouveaux chiffres?
L'analyse de taux de chômage doit se faire région par région et je dirais pays par pays même. La baisse du chômage que nous avons notée, c'est surtout dans les pays européens et les pays développés, qui avait augmenté beaucoup durant la crise et que nous voyons un mouvement de baisse qui est entamé depuis l'année passée.
Et justement, pour l'Europe, vous l'expliquez comment cette baisse du chômage des jeunes?
Par plusieurs raisons. D'une part, même si elle est légère, il y a eu reprise économique. D'autre part, un grand nombre de jeunes décident de rester plus longtemps en éducation. Donc, ça fait diminuer le chiffre de chômage. Et troisième raison, c'est que les programmes et les politiques qui ont été mises en place ont commencé à porter leurs fruits pour intégrer un certain nombre de chômeurs dans les pays avancés.
Par contre, vous avez noté une hausse du chômage en Asie et au Moyen-Orient. Et concernant l'Asie, est-ce que dû au ralentissement économique dans les pays émergents comme la Chine?
Oui, absolument. Cette augmentation du taux de chômage est réelle et malheureusement, on prévoit que ça peut continuer l'année prochaine. C'est dû au ralentissement économique en Chine et dans les pays avancés, dans les pays émergents de manière générale.
Est-ce que cette situation en Chine et dans les pays émergents peut avoir un impact par rapport à vos prévisions sur le chômage l'année prochaine?
Nous pensons que la situation du marché du travail pour les jeunes va être très tendue et que malheureusement, nous attendons à une détérioration des niveaux pour les pays émergents si le ralentissement économique continue comme c'est prévu.
Est-ce la raison pour laquelle l'OIT plaide pour un renforcement des investissements pour l'emploi décent?
Absolument. Et nous nous disons que c'est justement au moment où il y a les ralentissements économiques, qu'il faut accélérer les investissements créateurs d'emplois et qu'il faut combiner cette vision macroéconomique de relance de l'emploi avec des politiques ciblées vers les jeunes les moins favorisés, avec des actions ciblées qui varient de la formation à l'accès au premier emploi, subventionnement des premiers emplois, des programmes d'apprentissage, etc. Donc il faudrait focaliser sur ces jeunes parce que ça peut aider aussi à faire repartir la croissance.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.